Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, salut à toutes et à tous et merci d'être avec nous en ce grand dimanche de sport qui nous attend sur RMC. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter pour faire votre petite sortie sportive du dimanche ou en podcast et peut-être pour monter en température avant tout ce qui nous attend dans cette journée où on aura un grand événement cycliste Liège-Bastogne-Liège. Départ dans une heure, on est sur place sur RMC. Sexas face à Pogacar et Remco Evenepoel. Il ne tient plus en place. Je vous le dis, je ne suis même pas sûr qu'il a réussi à trouver le sommeil. Christophe Cessieux, surexcité, avant de voir la pépite française sur la route de la Doyenne. Ça va, Christophe?
Ouais, ça va. Tu sais, c'est un peu comme le 25 décembre au matin quand t'es petit, tu te réveilles, t'as pas encore le droit d'aller voir les cadeaux et d'un seul coup, ah, ils sont là devant toi. Bah, moi, c'est un peu ça. Ouais. J'attends de voir la course. Ça va être un magnifique cadeau et j'espère qu'il va nous faire un beau cadeau, Polo.
Oh là là, il est tout sourire. Il est tout sourire ce matin.
Ah oui, mais attends, on sait que dans les jeux-jeux.
On sait que ça ne dure jamais très longtemps.
Surtout qu'il y a Bennett en plus, donc tu vois, ça va m'énerver ça.
Christophe Cessieux, Julien Benneteau est là. Salut Bennett.
Salut Georges, salut tout le monde, salut Christophe. C'est longtemps que j'ai pas vu Christophe.
Ouais.
On n'était pas ensemble sur l'émission depuis longtemps.
Non, c'est vrai.
Il
regarde son sourire
carnassier
là.
Ouais, on va peut-être être ensemble un jour.
Ouais, ça m'étonnerait.
Alors, Bennett, il faut quand même expliquer, hein, taré de sport, hein, le mot taré, je l'assume, qui est en train de faire ses pronostics sur la fin de saison de Top 14 pendant le flash des infos pour savoir qui va se qualifier. Et alors, qui va être deuxième?
J'ai pas fini.
T'as pas fini?
Non.
Tu nous le diras tout à l'heure,
ouais,
quand même.
Si vous voulez.
Selon
ouais, j'adore faire ça.
Selon Bennett.
C'est ça qui est fantastique au rugby avec cette formule-là. C'est qu'il y a de l'enjeu, alors que le championnat de France de foot, il est pourri.
Donc, t'es pour les phases finales.
Bah oui, parce que ça met de l'enjeu jusqu'au bout, quoi. Mmh, et c'est voilà. Fantastique, je trouve.
Donc, on a Julien Benneteau extra lucide, hein, du coup, ce matin. Il est déjà en train de tout calculer. On a Cédric Emans, un peu moins lucide, qui est venu avec deux chaussures de couleurs différentes. Salut Cédric.
Faut regarder. Alors, je vous explique, j'étais sur une compète de golf, j'ai fait vite mon sac, j'ai pris la route hier soir. Et je voulais pas venir dans les studios en claquettes. Donc, je me suis retrouvé avec une chaussure droite et une chaussure gauche différentes. Et j'ai la chance d'avoir droite et gauche.
J'aurais pu avoir deux carottes. Et là, tu serais
donc, je lance une mode. Je lance une mode. Ouais. Voilà.
Attends, à une époque sur le terrain, c'était une mode. Hein. Je me rappelle, il y a certains joueurs de foot qui avaient des crampons différents.
Moi, c'est.
Peut-être qu'ils n'étaient pas exprès. Non, mais peut-être que tu lances un truc, effectivement. Ouais. Peut-être que cet été, on se chaussera à la immense. Tu vois,
le meilleur look.
Je suis pas sûr de ça.
Jérôme Pinault, lui, a passé 15 heures au soleil hier, certainement, et ce matin, il est rouge à carlate. Liège-Bastogne-Liège. Bonjour.
Salut, Jérôme Pinault.
On dirait un Anglais qui rentre des Baléares, tu sais.
Ouais. Tu sais, quand il fronce les sourcils, c'est les traits blancs que t'as. C'est du franc.
C'est la pelle de phare.
C'est quoi, t'as pris un coup de cheveux avant la course?
Petite sieste hier après-midi sur la plage, avant le match de Saint-Nazaire, et je me suis endormi, et donc, pour un chauve blanc, c'est
bon, t'es en forme, hein, tu vas commenter avec Marie-Azé, Christophe, Liège-Bastogne-Liège tout à l'heure. Hein.
Tu sais,
t'as récupéré de l'énergie.
Tu sais que c'est la seule date avec le départ du Tour où j'ai des frissons chaque année et ce manque de pas y être. Liège-Bastogne-Liège, toujours. Ah, ça fait toujours ça.
Parce que tu l'as faite un paquet de fois. Hein.
Un paquet de fois, c'était ma course préférée et c'est surtout que c'est une course tellement particulière.
Ouais. On rappelle, hein, Jérôme, quintuple vainqueur de la Douai. Non. Allez.
Ça c'est très très
13 participations de 15 pour un petit coureur. Ouais.
En plus, ça mérite un jet de bouteille.
En plus, à une époque où si on refait des classements, je pense que je me rapproche du top.
Du podium. Ouais. En plus, je suis des nombre de fois, je suis venu t'interviewer à l'arrivée. En plus, toujours un très bon client. Déjà à l'époque,
j'étais souvent le premier Français de Paris.
C'est vrai. C'est
tu m'as
premier Français, Jérôme Pinault.
Cette critique est moche.
Je rigole. Je t'adore.
Si j'avais su à l'époque que tu me parlerais comme ça, je t'aurais ignoré.
Mais tu peux à partir d'aujourd'hui, hein. Tu peux commencer à l'ignorer.
Allez, au programme de vos grandes gueules du sport. Bah ouais, sinon je vais être embêté si vous parlez plus, les gars. À 10h sur le ring, OM Nice ce soir. Comment on appelle ça? L'Azurico, le Méditerranéo, à 20h45.
Le Crisico.
Croyez-vous à la révolte marseillaise? Et oui, parce que l'OM est 6e avec 5 points de retard sur Lyon, 3e ce matin. Et il y a eu les mots de Béni Bellassia la semaine dernière, ceux de Facundo Medina sur RMC cette semaine. Votez sur le compte X des GG du sport, 10h30. Tiens, on va faire une plongée, je vous préviens, dans la fabrique du très très haut niveau, parce qu'on a pu parler avec Léon Marchand cette semaine, notre quadruple champion olympique de natation. Il est lancé vers de nouveaux objectifs. On va l'écouter, vous allez tous et toutes l'écouter, et vous allez nous dire si vous êtes impressionné par son ultra discipline. Je vous préviens, c'est impressionnant. Sur le buzzer, le PSG en route vers le titre en Ligue 1, 6e avec 6 points d'avance sur Lens après la victoire à Angers hier. On est surtout à 2 jours de PSG Bayern en demi-finale aller de Ligue des Champions. Est-ce que ce Bayern vous fait peur? Le zapping, les GG remontent le temps. On va parler de Ali qui refusait d'aller au Vietnam il y a 49 ans, et puis le vestiaire, être fait ou pas pour l'élite. Vous allez voir, on a parlé avec Sébastien Tillousbord, le manager de Montauban cette semaine, qui nous a dit que certains joueurs n'étaient pas forcément câblés pour jouer en top 14. Ça va être très intéressant. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, gagnez un séjour dans un des 400 campings Homer. Ce sont des campings 4 ou 5 étoiles situés en France ou en Europe. Vous voyagez selon vos envies. Pour remporter votre séjour Homer, appelez le 32-16, touche 4, ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, j'espère que vous avez préparé les pop-corn, les amis. Une course monumentale en Belgique aujourd'hui. Notre nouvel espoir du cyclisme, Paul Sexas, face à l'empereur du peloton, Tadej Pogacar. Une chose, que la force soit avec lui.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Tadej Pogacar qui s'envole dans cette dernière ascension du vieux Quarmont. Attaque de Pogacar à l'instant. Tadej Pogacar qui franchit la ligne, point vers le ciel. Tadej Pogacar, victoire de Tadej Pogacar, victoire de Tadej Pogacar.
C'est l'élu du coureur qui sera le coureur attendu pour gagner le tour.
Et c'est Paul Sexas qui va s'imposer. Troisième victoire de la semaine pour Paul Sexas. Le maillot jaune bien accroché sur ses épaules à la veille donc de cette dernière étape.
Il accélère, Paul Sexas, ça y est, Paul Sexas a fait la différence. Paul Sexas a fait accélérer, il part tout seul, il est parti tout seul. Le vainqueur le plus jeune de l'histoire de la Flèche Wallonne. Victoire de Paul Sexas en patrouille. Il a attaqué à 200 mètres de l'arrivée et il a gagné. Paul Sexas, il envoie un gros message à ses adversaires de dimanche, Tadej Pogacar.
Je pense que c'est l'élu.
Magnifique. C'est un grand jour de cyclisme qui nous attend en Belgique avec Liège-Bastogne-Liège, le dernier monument du printemps dans les Monts Ardennais. Course à vivre en direct sur RMC. Pour Paul Sexas, 19 ans, c'est une nouvelle occasion de se confronter au maître Pogacar qu'il avait battu au Strade Bianchi en début de saison. Depuis, le Français a gagné partout où il est. Allez, au Pays Basque et surtout à la Flèche Wallonne mercredi dernier. Toute la planète vélo, c'est pas seulement nous, le situe aujourd'hui en outsider de la doyenne des classiques, derrière le favori slovène, triple vainqueur de l'épreuve, et aux côtés du Belge Remco Evenepoel, double gagnant. Départ 10h, arrivé après 16h, après 259 km et 11 difficultés à franchir. Les GG, je vous pose la question ce matin. On est chaud, hein, je vous préviens, la Gare des Étoiles et tout, hein, on s'est un peu enflammé. Paul Sexas peut-il déjà faire douter Pogacar? Jérôme Pinault.
Dans quelques heures dans la redoute, oui.
Christophe Cessieux.
J'ai encore un peu de mal à y croire. Je demande à voir.
Cédric Emans.
Non, mais il va le contrôler.
Ah. Julien Beneteau.
Oui, plutôt oui.
Plutôt oui, on vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Tiens, j'ai déjà un message de Boris qui me dit la preuve que c'est que ça s'est déjà observé, UAE, l'équipe de Pogacar, cherche déjà à l'embaucher. Mieux vaut l'avoir chez nous, chez eux, plutôt que l'affronter dans l'équipe. Maria Azé, notre voix du cyclisme sur RMC, est avec nous. Elle va nous commenter la course depuis Liège. Salut Maria.
Salut Georges, salut tout le monde. Exceptionnel prod, ça y est, je suis dedans aussi.
Ah bah oui, ça y est. Tu vas te demander où sont les sabres laser. Tu vas pas comprendre du coup. Tu as rencontré les acteurs hier. Comment c'est que ça s'est considéré par ses adversaires et comment lui se présente au départ?
C'était évidemment l'attraction, hein, Paul Sexas. Ce n'est que le deuxième monument auquel le Français participe. Et écoutez, hier à la présentation des équipes.
Le phénomène est devant vous, mesdames et messieurs, le jeune champion français, Paul Sexas.
Alors celui qui ne doit plus vouloir entendre parler de Paul Sexas, c'est sûrement Tadej Pogacar, à qui la question de est-ce qu'il le considère comme son adversaire, ce qu'il pense de lui, lui a été posée au moins 50 fois. Nous, on lui a demandé est-ce qu'il avait regardé la Flèche Wallonne mercredi.
Comme vous, j'ai regardé la télé, j'admire sa maturité à son âge, il montre sur les courses à quel point il est fort, c'est le futur, et il va montrer qu'il a les jambes sur la course.
Alors on le sait, il a été un peu piqué dans son ego, Tadej Pogacar, et il est capable d'écraser la course aujourd'hui pour montrer que c'est toujours lui le patron. Ne pas oublier non plus Remco Evenepoel, double vainqueur de la doyenne, qui lui prend encore un peu le coureur de 19 ans comme son petit.
C'est impressionnant, ça c'est sûr. Puis après, je pense qu'on sait tous combien il fait déjà pour son sport. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans. Il doit faire encore plus que 10 ans de carrière. Donc c'est clair que faire beaucoup d'efforts à un certain âge, surtout à cet jeune âge, ça peut être dangereux à un certain moment si la tête ne suit plus. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait et je lui souhaite une belle carrière. Et une longue carrière.
Alors à eux deux, Pogacar et Evenepoel ont remporté les 5 dernières éditions de la doyenne et Paul Sexas le sait, la tâche ne va pas être simple.
Forcément, ça peut que me tirer vers le haut et voilà, c'est des très très grands coureurs. Moi, quand je prends le départ d'une course, c'est pas non plus pour viser autre chose que la gagne. C'est sûr que c'est un test contre Tadej, contre Remco et je vais essayer de me battre avec eux demain, donc ce sera avec beaucoup d'impatience que j'aborde la course.
Alors la course devrait, sauf grosse surprise, se décanter dans la côte de La Redoute, située à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Reste à savoir si Sexas fera mieux qu'au Strade Bianche et parviendra à tenir la roue de Tadej Pogacar. C'est en tout cas ce qu'on va suivre toute la journée.
Merci Maria Azé. Évidemment, on suit ça avec toi. Départ à 10h. Les choses sérieuses commenceront évidemment un petit peu plus tard. Vous avez entendu, hein, Sexas a dit quand je suis au départ d'une course, c'est pour chercher la victoire, même s'il y a Pogacar et Evenepoel. Sexas peut-il déjà faire douter Pogacar, Christophe Cessieux?
Écoute, je demande à voir ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, je pense pas que Poggi soit plus inquiet que cela ce matin. Au contraire, le fait qu'on n'arrête pas de lui poser des questions en lui disant « Est-ce que c'est que ça, c'est votre adversaire numéro un ?» Je pense que ça va lui donner envie, alors déjà de s'amuser, parce qu'on sait que Poggi adore s'amuser sur le vélo, mais ça va lui donner envie de fesser le jeune impudent qui ose, par les questions de Maria, de Georges et tous les autres, le mettre en opposition à lui. Donc je pense que Pogacar va se faire un plaisir, va se faire un devoir aujourd'hui de montrer à tout le monde, au reste du monde, qu'il reste le maître. On rappelle quand même que les deux hommes se sont affrontés à 3 reprises depuis que Paul est passé professionnel. L'an dernier, au Mondiaux à Kigali, Pogacar s'est imposé avec 9 minutes d'avance sur Sexas.
Pour sa première course longue.
L'écart s'est réduit à 3 minutes 41 lors des championnats d'Europe. Il y a 1 minute au Strade Bianche. Est-ce que la dernière minute qui sépare les deux hommes va disparaître tout à l'heure? Je l'espère, mais
tu dis plutôt non quand même.
Je dis
tu
plutôt non parce que là on est en train ce que fait Paul est extraordinaire, mais n'oublions pas ce que fait Pogacar depuis des années et même depuis le début de la saison. Il a fait 4 courses, il en a gagné 3, il a terminé 2e de Paris-Roubaix, battu au sprint par Van Aert. Ça reste le cador numéro 1, quoi. Il faut pas l'oublier. Et si Paul arrive à le faire douter, bah, j'en rêve. Mais attention un peu.
Et puis si Paul va sur le Tour de France, qu'on souhaite, du moins ce que je souhaite, Pogacar, c'est le meilleur moment d'envoyer un message très fort pour le contrôler sur les prochaines courses. Moi, je pense que toutes ces pièces qui sont mises là, on lui parle de Paul Sexas, on lui parle. Je pense que c'est un grand champion et tous ces petits pourcentages d'énervement, d'excitation, il va les avoir pour lui. Il va vouloir le tester. Et j'espère qu'il ne fera pas exploser, mais je pense que c'est le champion qu'on va voir, le gros champion cet après-midi.
Ouais. Toi, tu crois à la théorie du « il va vouloir montrer aux jeunes, ce n'est pas encore ton moment ». C'est encore mon moment. Attendez, tu as été dans des équipes dominantes, par exemple au Stade Toulousain, Cédric, c'est intéressant ça. Quand on est dans la position du dominant, quand tu vois des équipes que la presse, par exemple, met en avant... Quand toi tu es dans la position du dominant, tu penses quoi? Ça te motive?
Il faut remettre les gens à leur place.
non. Bien sûr, sur la nuque là.
Bien sûr, avec le Stade, on a souvent été challengé, mais
par
dès qu'on avait
des équipes,
il y avait Clermont, Biarritz, Stade Français à des moments, et nous on avait un gros derby qui était Castres où c'était chaud, mais on avait une envie de montrer notre supériorité, notre suprématie, et ça faisait pas forcément des grands matchs, mais ça faisait des gros matchs. Et chaque fois que la presse s'amusait, alors Guy Noves n'exposait pas dans les vestiaires des articles, mais il venait te parler à l'oreille. Voilà. Il venait te voir en te disant, c'est eux les meilleurs. Et puis à notre époque, il y avait les Galactiques de Biarritz aussi. Donc, c'est à chaque fois, ça nous excitait, ça nous donnait envie de nous surpasser. Ouais.
Jérôme Pinault, tu penses que Pogacar peut déjà, en tout cas, que c'est que ça se fait déjà douter Pogacar?
La première des choses, c'est que quand tu es néo-pro,
comme lui, à 19 ans, tu arrives sur Liège, ton objectif c'est de finir. La première des choses, normalement. Alors là, on parle déjà d'un gamin qui a gagné la Flèche Wallonne avec autorité, sans trop forcer, et qui arrive sur le départ de Liège avec un statut quasiment de favori au même titre que Gremco, sans parler de la galaxie Pogacar. C'est même dans la bouche de nos confrères belges qui disent que potentiellement il peut être plus fort que Gremco. Et moi, je pense que rien que ça, même s'il a tout dominé, même s'il domine encore et même s'il a encore de la marge, en haut de la redoute, parce que c'est là qu'il va attaquer forcément,
qu'il est toujours là, ouais.
S'il est encore là, le final sera différent de ce qu'il avait imaginé. Sachant qu'en plus, ce matin, au départ de la course, il y a une équipe qui est très affaiblie, c'est celle de Pogacar, qui n'a pas l'équipe pour mettre en place le plan roulon compresseur, essorer tout le monde et arriver au pied de la redoute pour qu'il s'envole. Donc effectivement, et c'est normal, et je pense que ça va le rendre encore plus fort. Et là, je te rejoins, Christophe. Je dis pas que Pogacar a peur de Sexas. Je dis pas que Pogacar va se faire battre par Sexas. Je dis que Pogacar va avoir le doute parce que le petit va pas le lâcher comme ça.
Tu penses que ce matin, il se dit, est-ce qu'il sera avec moi en haut de la redoute? Est-ce que c'est la question que se pose Pogacar?
Je pense que ce matin, il se dit.
On rappelle à la redoute, à 34 km de l'arrivée, 1 km 600 de montée, à 9,4% de pente moyenne, des pentes maximales à près de 17%. Il y a des difficultés encore après, mais c'est le moment bien sûr. Le plus compliqué.
Je pense que pour la première fois depuis qu'il y participe, Tadej Pogacar a un plan avant la redoute et après, ils referont un point au-dessus. Parce que le final sera différent si Pogacar et Remco,
dû à son équipe qui est pas au complet pour
et dû à son équipe qui est pas au complet et dû à ce gouffre qui est en train finalement de se combler beaucoup plus rapidement qu'il pouvait l'imaginer. Mmh. Il a encore une jambe au-dessus, ça j'en doute pas. Mais il faut être très fort collectivement pour gagner Liège-Bastogne-Liège et collectivement il est moins fort que ce qu'il avait imaginé. Pas Del Toro, pas Almeida, pas Tim Wellens dans l'état où il devrait être. Donc au sommet de la redoute, s'il y a deux mecs dans sa roue, Remco et Paul Sexas, il va commencer à se dire comment je vais faire pour m'en débarrasser. Il reste la Roche au Faucon quand même, qui sera une des dernières difficultés.
À 13 km de l'arrivée.
Mais je pense que la course n'est pas la même.
Il peut se retrouver dans la même situation que lors de Paris-Roubaix, avec un Van Aert qui n'avait pas lâché. Là, ça peut être Sexas à la place de Van Aert.
Et rappelez-vous, l'année dernière aussi, cette fameuse course, l'Amstel Gold Race, où il s'est débarrassé des deux principaux adversaires qu'il avait sur le papier, Remco et Skelmose, qui ont fini par revenir et par le battre. Et je pense que le long solo qu'il a l'habitude de nous offrir, j'ai l'impression qu'il va pas le tenter. C'est qu'une impression, mais ce serait prendre énormément de risques d'attaquer de très loin avec ces deux-là qui ont tout pour s'entendre, puisqu'il y en a un qui fait bien comprendre dans les interviews, petit, il va grandir, mais pour l'instant c'est encore moi le roi.
Remco Evenepoel
derrière Tadej. Remco Evenepoel, c'est normal, on le sait, c'est sa communication.
Ah ben il nous l'avait dit même en début de saison, pour la vue sur RMC, il va nous observer pendant cette saison. Et puis il conseille de nous observer.
Et Remco a
observé Paul.
Remco a deux Liège-Bastogne-Liège hein, au palmarès. Paul n'a rien pour le moment.
Et il est double champion olympique aussi. Hein,
donc, mais je pense que effectivement, c'est assez simple à comprendre ce matin sur la potence ou dans la tête de Tadej Pogacar, il y a deux dosards. Celui de Paul Sexas et celui de Remco Evenepoel. Mais au même titre que Remco Evenepoel, Sexas est une menace pour Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège.
Bennett, Sexas peut-il faire douter Pogacar?
Oui, je pense qu'il le fait douter. Je suis à 90, voire 100% d'accord avec ce que dit Jérôme. C'est-à-dire que ce matin, au départ de la course, il n'est pas angoissé par Sexas,
non.
Pogacar, parce que je pense qu'il sait que au fond de lui, il est encore plus fort. Mais il voit très bien que le Français, il comble le retard de plus en plus à l'époque des datas, etc. Je pense qu'il a regardé la course de mercredi. Et je t'ai entendu à l'antenne cette semaine. Je crois qu'il a quand même battu la...
Ouais, il monte plus vite.
De 10 secondes, le mur de lui.
Ouais, même si les conditions de course sont différentes.
Exactement. Jérôme m'a mis ça à la valeur. 10 secondes, c'est pas rien. C'est pas une ou deux secondes. Ça veut dire que au niveau des jambes, au niveau de la condition physique, c'est que ça, c'est le top. Et que je pense vraiment, alors oui, il y a Evenepoel, mais je pense effectivement que Pogacar, il va surveiller c'est que ça. C'est que s'il, dans son plan initial d'attaquer là où il a prévu d'attaquer, certainement à la redoute, etc. Si celui qui va regarder en premier de voir s'il suit ou pas, à un moment donné, il va regarder si c'est que ça suit. Si Evenepoel suit encore, il peut se dire « Ok, je vais peut-être le lâcher après ». Mais s'il voit que Sexas est toujours là, douter, j'en sais rien. Mais oui, je pense que c'est aujourd'hui la menace, entre guillemets, pour Pogacar. Et il ne faut pas se tromper. Il le sait et son équipe le sait. Il dans ce qu'ils disent en amont des courses, quand ils préparent les courses, etc., ils parlent beaucoup de Sexas.
Mais de toute façon, Pogacar, quand il les grands champions comme ça, quand ils sont devant, qu'ils ont l'habitude de maîtriser, quand tu leur mets un doute, j'aimerais voir comment il va réagir. Si Pogacar, à force de tout maîtriser, là il a Paul Sexas dans sa roue, il n'arrive pas à le lâcher. Comment il va réagir? Parce qu'il n'est pas habitué à ce genre de...
Il a été secoué par Vingegaard sur les Tours de France. Hein.
Oui,
mais lui qui est un peu lassé du manque d'adversité parfois.
Mais là, il a été secoué. Le gamin qui arrive, dans les datas, tu l'as dit, ça monte de plus en plus. J'aimerais voir, moi, à la fin de la redoute, comment ça peut se passer. Si ça attaque, il reste une dernière bosse. Et puis,
Il y en a deux derrière la redoute.
C'est le champion qui doute. Et il ne doute jamais. Et le jour où tu commences à douter, quand t'as gagné, tu pètes ton plafond de verre. Bon, mais t'as gagné, tu sais ce qu'il faut faire pour revenir. Mais le jour où tu commences, t'es le champion, tu commences à douter, mais c'est pas la même chose.
De toute façon, il a douté, pendant très longtemps, il a buté sur Milan-San Remo, mais il s'est jamais désespéré, il a continué, et au bout d'un moment.
Oui, mais il n'avait pas gagné. C'est quand tu gagnes et que tu te fais, tu dis, ah, tout d'un coup, ma suprématie, elle est moins là, je me fais rattraper, oui, et le doute dans le champion.
Pour faire le premier exploit. Ouais. Enfin, pour Sexas, ce serait le premier. Alors, il a déjà gagné gros. Mais pour faire le premier exploit, pour revenir sur ce qu'a dit Cédric, quand, dans n'importe quel sport, quand tu joues contre le numéro un absolu, ils ont l'habitude d'imprimer quelque chose, un rythme, une intensité, qui font que, au bout d'un moment, les autres lâchent. Jusqu'au moment où, un jour, tu sais pas pourquoi, il y en a un, alors de manière sur la durée, comme Nadal avec Federer a réussi à tenir, etc.
Alcaraz avec Djokovic.
Voilà. Ou alors de manière éphémère, je vais prendre mon cas, où j'ai réussi une ou deux fois à battre Federer dans un certain scénario, mais j'ai pris d'innombrables branlées. Parce que, non mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, comme dit Cédric, et c'était le plan, c'était d'essayer de tenir le score, et à la moindre petite ouverture, d'être hyper opportuniste. Pour prendre le truc et le faire douter à ce moment-là.
C'est pour ça que je te dis.
Donc peut-être qu'il y a un parallèle.
C'est pour ça que je te dis
si,
ça.
C'est que ça, s'il tient, il tient, il tient là où Pogacar pense qu'il va faire la différence et qu'il le tient. Et Pogacar, comme disait Jérôme tout à l'heure, putain merde, il est toujours là.
Alors rendez-vous en haut de la redoute.
Qu'est-ce que je
la
vais
redoute
faire? Comment je vais faire, quoi?
La côte de la redoute, elle la rend parfaite. C'est entre 6 et 7 minutes de monter. Tadej Pogacar a l'habitude de fesser tout le monde là. En haut de la côte de la redoute, sur ce fameux faux plat où s'est envolé pour sa première victoire Remco Evenepoel, si Paul Sexas est dans sa roue, alors vous m'enlèverez pas de la tête.
Oui, mais que Julien a raison, c'est comment questions. Je vais faire. S'il se pose cette question, c'est gagné pour Sexas.
Tiens, Xavier sur WhatsApp me dit Ivan Lendl en tennis, ne doutez jamais jusqu'au jour où il est tombé sur Chang et il ne s'en est jamais remis. On va voir évidemment la comparaison, mais c'est vrai que ça excite tout le monde, hein, évidemment. Ah. Tiens, PH me dit quelle heure estimée pour le début de la redoute. On y sera aux alentours de 15h, a priori, mais de toute façon, il y a un enchaînement avant avec le passage des difficultés de Van Stoker et la hausse levée.
Bien avant,
il faut regarder et écouter surtout très tôt parce qu'il y a des pièges sur Liège-Bastogne-Liège. On revient dans un instant avec vous au 32-16. Sexas peut-il déjà faire douter Pogacar? On en parle sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, Sexas peut-il faire douter Pogacar? Liège, Bastogne-Liège, départ à 10h sur RMC, course à suivre tout au long de la journée avec Christophe Cessieux, avec Jérôme Pinot, avec Maria Azé sur place. Tiens les amis, avant de vous écouter au 32-16 notamment, il y a beaucoup de monde qui veut réagir, on va écouter Julien Jourdi, le directeur sportif de l'équipe de Paul Sexas, de l'équipe Décathlon CMA CGM. Je rappelle qu'RMC BFM appartient au groupe CMA CGM. On écoute Julien Jourdi nous parler des ambitions de Paul Sexas aujourd'hui.
On est sur une course malgré tout différente par la longueur. Pratiquement, je pense qu'on sera au-delà des 6 heures de course demain. Un monument. C'est clair que l'ambition, par contre, reste la même de pouvoir jouer la victoire demain à Liège. C'est une certitude. Paul a démontré depuis le début de la saison qu'il fait partie des meilleurs coureurs cyclisme international. Donc, on est resté sur ce curseur de très élevé, de dire qu'on est en capacité à lutter pour la victoire demain, même si on sait que la partie sera pas facile. On veut se mentaliser à livrer la bataille, pas pour le podium, mais pour la victoire.
C'est important, hein, ce qu'il dit Julien Jourdi. On va se mentaliser à livrer la bataille, pas pour le podium, mais pour la victoire, Jérôme Pinot.
Ouais, je peux même vous dire que Julien étant un très bon ami, il y a un vrai plan. Il y a un vrai plan du côté de Décathlon CMA-CGM pour éventuellement affaiblir l'équipe de Tadej Pogacar. C'est-à-dire qu'on a mis un plan en place.
Attends, mais donne pas des infos comme ça. Imagine Pogacar nous écoute.
Non, mais l'idée pourquoi générale, c'est
pourquoi
que sur,
pourquoi, oui,
sur la flèche wallonne. Sur la flèche wallonne, il y avait clairement une consigne et un appel de Paul Sexas pendant le tour du Pays Basque vers Julien Journy en disant c'est quoi le plan, comment on fait, je veux gagner la flèche wallonne. Donc déjà, c'est dire la confiance du garçon. Et il y a un vrai plan pour gagner Liège-Bastogne-Liège.
Tiens, j'ai un message de Xavier sur WhatsApp qui me dit est-ce que Remco Evenepoel joue son statut? C'est-à-dire que, est-ce que derrière Pogacar, si c'est que ça se termine deuxième, est-ce que dans la hiérarchie mondiale, il aura une position désormais plus établie qu'un Evenepoel et peut-être s'inviter à la table d'un Vingegaard, le dauphin habituel?
Non, il joue pas son statut. Je trouve qu'on respecte pas assez le coureur qu'il est. Hein. Ça a été aussi un phénomène. Et n'oublions pas la grosse chute sur le Tour de Lombardie qui l'a un peu freiné. Mais Remco, quand il est arrivé, c'était la même chose que Paul Sexas avec un an d'écart. Mais c'est un énorme champion. On serait ravis déjà que Paul
la semaine dernière,
nous ouvre.
Il a quand même fait une course extraordinaire.
C'est un garçon qui gagne l'Amstel Gold Race. C'est presque devenu normal. Ça ne l'est pas. C'est un énorme champion. C'est un immense champion. Et il ne joue pas son statut. Il joue juste que la porte du jardin au fond est en train de s'ouvrir et va venir jouer avec lui au fond du jardin.
Il doit y penser
ce matin. Un gamin qui s'appelle Paul Sexas.
Jérôme, il doit y penser ce matin avec l'ego qu'il a.
Sur les grands tours.
Sur les grands tours, Paul Sexas pour moi va passer très
vite. Voilà, et c'est ça en fait le problème.
Mais justement, pour Remco, il est sur son terrain, Paul Sexas. C'est-à-dire, si jamais il le bat sur son terrain, dans quel terrain il va pouvoir le battre?
Alors, n'oublions pas aussi que l'année dernière, Remco revient sur Liège après une déroute. L'an dernier, il s'est garé dans la roche au Faucon.
Il était pas en forme.
Il était pas en forme. Il revenait après sa chute. Il a gagné à la Flèche Brabançonne. Il s'imaginait qu'il allait retrouver la forme qu'il avait l'année d'avant et ça n'a pas été le cas. Sur Liège, s'il est battu par Paul Sexas, on va dire, dans un sprint à deux ou à trois, ça sera pas la même que s'il se fait larguer et qu'à la redoute, il se retrouve plus qu'à deux. Là, c'est sûr qu'il va douter.
S'il y a une arrivée à trois, si les trois n'ont pas pu.
Pas dans l'aube, hein. Mais si les trois personnes.
Si les trois n'ont pas pu se
faire un petit débat là-dessus.
Dans la redoute et après dans la dernière côte et qu'ils arrivent, tu ne mettrais qui en favori sur l'arrivée à trois?
Je mets Tadej Pogacar parce qu'il a déjà battu des Julien Alaphilippe
au sprint.
Il a encore cette
Remco,
force.
Il était pas mal le dernier aussi au sprint. Hein.
Après, il est arrivé avec deux Ferrari passés quand même, donc c'est quand même plus facile. Mais il est.
Skelmoser avait battu Pogacar et.
Mais sur la forme et sur la force et sur le jus, Tadej Pogacar reste encore le plus rapide. Mais on n'a jamais vu Paul Sexas sprinter au bout de 260 bornes, ça le problème.
Faites comme nous, hein, visualiser un peu sprinter face à des Ferrari passés. C'est assez sympa. À l'intelligence artificielle de vous faire un truc, un prompt. Ça peut être intéressant. Tiens, Boris nous appelle au 32-16. Salut Boris, tu nous appelles de Paris.
Oui, bonjour.
Bon, est-ce que tu vois Sexas se faire douter Pogacar dès aujourd'hui?
Dès aujourd'hui, non. Je pense que Pogacar, il a encore une sacrée marge sur Sexas. Et moi, je vois deux raisons pour lesquelles il ne s'inquiète pas. C'est que chaque fois, enfin, pour l'instant, quand ils ont couru ensemble, Pogacar a lâché Sexas comme les autres, hein, bah, comme l'a rappelé Christophe tout à l'heure, au championnat d'Europe et au Strade Bianchi au début de cette année. Et depuis, certes, c'est que a eu des superbes victoires, hein, en Ardèche, sur le Tour du Pays Basque, à la Flèche Wallonne. Mais quand les coureurs qu'il a lâchés lors de ces victoires, eh ben, Pogacar, il les tord sans même y réfléchir dans toutes les courses auxquelles il participe. Donc, ouais, je me dis qu'aujourd'hui, pour Pogacar, c'est un adversaire comme les autres. On en parle un peu plus. Par contre, je me dis que dans le futur, comme je disais tout à l'heure dans le message que vous avez cité, Pogacar, il garde un œil quand même sur Sexas. Et la preuve, c'est qu'il cherche à enrôler dans son équipe. Comme ils font un peu, comme Brunel faisait du temps de l'US Postal Discovery.
Ancien manager de Lance Armstrong.
Ouais, quand ils avaient embauché Heras parce qu'il
embêtait Armstrong sur le Tour de France, sur le Tour, effectivement, en général.
Éviter de comparer ces époques-là, ça m'énerve.
Dans la stratégie, effectivement, d'affaiblir l'adversaire en récupérant la meilleure carte, tout mettre ailleurs.
Ils pratiquent déjà cette stratégie à UAE, hein. Ils ont quand même ratissé très large. Ils ont quand même eu Ayuso, ils ont Del Toro. On essaye de prendre les forces vives de chaque équipe. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils voudraient bien.
Ils fonctionnent surtout jusque-là en allant chercher les meilleurs jeunes chez les jeunes. Recruter les meilleurs, ils l'ont pas encore fait. Là, ils sont sur sur l'après Pogacar. Je pense que c'est surtout ce qu'il prépare.
Je rappelle que on l'a pas encore dit, hein, mais il n'y a pas eu de vainqueur français sur Liège Bastogne-Liège depuis Bernard Hinault en 1980, l'année où il avait gagné sous la neige et perdu la sensibilité de deux doigts parce qu'il était allé au bout malgré le climat
pour les jeux, glacial.
Non, je sais pas. Ça peut quand même tomber. Mais voilà, Paul Sexas également. Je vous le dis, qui est à la une ce matin de journaux non sportifs en France, des journaux nationaux à l'étranger.
En revanche, quotidien national de sport, ça les intéresse pas a priori. Hein.
Oui, ben après je pense qu'il y a des éditions parisiennes, des éditions nationales, mais effectivement pour Paul Sexas,
Non mais
est-ce que ça vous interpelle ça, tiens, Bennett et Cédric, on sent que ce garçon à 19 ans n'est pas touché par la pression. Ouais. On n'arrête pas de parler de lui, le tour et tout ça.
En tous les cas, dans ses déclarations, j'ai l'impression que ça coule sur lui, il est préparé, il est câblé pour. Je pense qu'il est bien managé de ce côté-là. Il fait des interviews, il est propre. Ce que j'apprécie, c'est que il se met sur des départs en disant je peux gagner, je veux gagner, et il est habité par ça.
Ça, c'est pas anodin quand même, ça.
On en fera un débat tout à l'heure quand on va dire sport de haut niveau, pas sport de haut niveau. Je pense qu'il est câblé, il est préparé mentalement, il a cette insouciance et cette force-là. On verra quand il aura gagné un gros palmarès comment il va se comporter, mais il
commence à en avoir un bon déjà.
Oui.
19 ans, il a gagné le Tour du Pays Basque, épreuve par étape pour le tour la plus dure de l'année. Et la Flèche Wallonne, les garçons, il vient de gagner la Flèche Wallonne à 19 ans.
Il est encore dans la fraîcheur.
Je pense surtout qu'il a le logiciel, et je ne cesse de le dire depuis le début, que l'on ne maîtrise pas ou qu'on a oublié de maîtriser depuis tellement longtemps parce qu'on a plus de champions. Je parle dans mon sport.
Sur un sport individuel, je suis d'accord.
C'est un garçon qui est capable d'assumer.
Il a le logiciel d'un stade toulousain. Alors que c'est un sport individuel.
Exactement. Il a le logiciel Poggi. Et il a la confiance en lui. Il l'affirme avec une espèce de sérénité. Mais je pense que c'est, il est sûr de lui.
Il faut le dire. Personne ne parle comme lui aujourd'hui dans le peloton.
Même Vingegaard.
Il est câblé. Pas forcément.
On en fera un débat tout à l'heure. Mais il a quelque chose en moins ou en plus. Ça dépend comment on regarde. Mais ce doute là. Il a pas quoi.
Mais ce qui est bien, c'est que la manière dont il le fait, la manière dont il l'annonce. Toi, par exemple, Jérôme a des infos où aujourd'hui il se prépare pour gagner. Il y va pas pour être deuxième. C'est-à-dire qu'il demande à son équipe un plan. Il va essayer de le mettre à contribution. Mais il est pour l'instant, il est dans un schéma où il annonce entre guillemets, il assure. Et Stradé Bianchi, il dit, je vais essayer de... Putain, il a quand même tenu...
Ouais, mais il fait pas d'annonce fracassante.
Exactement. Et en fait, c'est là où il est fort, parce que s'il perd aujourd'hui, on va jamais dire... Alors, parce que c'est Pogacar, etc.
Attention. J'ai hâte de voir ce qui pourrait se passer si cet après-midi, il faut lâcher dans la redoute, savoir si,
non, mais
si tous
vois,
les gens aujourd'hui qui s'emballent et qui en font le meilleur poids.
Mais Julien a raison.
Mais c'est très dur. Et c'est aussi l'environnement médiatique qui fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il a déjà un petit peu gagné, on est prêt, et que c'est Pogacar, on est prêt à, s'il perd, il finit deuxième ou troisième, limite, c'est normal. Il aura tout tenté, etc. Mais je finis parce que Arthur Fils et Roland Garros ont fait que parler demi-finale. Et moi, je suis premier à le dire. Et je suis le premier à dire que, ah ouais, les gars, mais s'il fait huitième de finale contre Sinner.
Bah oui.
Et qu'il paume en 4-7 ou en 5-7 en faisant un match incroyable, il aura raté son Roland Garros.
Il a renvoyé des promesses pour demain.
Non, mais là, parce que les gens sont en train de se dire, il faut qu'il fasse demi.
Le seul truc dans sa com, il dit qu'il peut gagner, mais il le fait intelligemment. Il n'est pas en train d'annoncer qui va tout gagner, tout écraser.
Dans la même com, il dit qu'il respecte énormément les autres.
C'est-à-dire que s'il gagne pas, c'est pas grave. Le danger, c'est d'annoncer clairement que tu vas gagner et quand tu perds. Et là, mentalement, c'est pas la même chose.
La grosse tôle, et la seule chose, mais que j'imagine absolument pas, c'est qu'il est lâché dans la redoute et qu'il y a 30 mecs en haut qui sont devant lui. Je l'imagine absolument pas. Aujourd'hui, la seule défaite qu'il peut imaginer, et c'est pour ça qu'on lui, personne lui tombera dessus, parce qu'il n'a que 19 ans et que c'est son premier Liège-Bastogne-Liège, c'est que la seule déception, c'est qu'il fasse 2 ou 3. Mais s'il fait 2 ou 3, c'est déjà magique.
C'est énorme.
À son âge.
Oui,
je l'imagine absolument pas.
Mais là,
tu parles en
connaissance de cause, parce que tu l'as vu monter, tu le connais. Mais aujourd'hui, il y a un emballement. Georges disait tout à l'heure, aujourd'hui, il nous appartient plus. Paul Sexas, c'est fini. Tout le monde se l'approprie. Mais c'est un peu ça. Et l'emballement des gens qui connaissent finalement assez peu le vélo pour lui peut retomber d'un coup en disant, oh là là, mais il s'est fait taper par Pogacar, il a pas existé.
Donc, les vrais connaisseurs ne le diront pas. Et je pense que dans le milieu, quand on est athlète de haut niveau, il y a des sons qui diffèrent selon les
bien
sources
sûr,
et les sources du, qui viendront du, des vrais.
Je ne veux pas entendre s'il fait un podium déception pour
Paul Sexas. Mais non, tu l'auras sans doute, il ne faut pas le faire, des connaisseurs et des suiveurs.
Non,
mais tu verras les
bandeaux. Mais non, mais ceux qui vont commenter ça, c'est qu'ils veulent croustillant. Ils veulent pas, ils sont pas dans l'analyse de la course. C'est des gens qui voudront du croustillant.
Tiens, les amis, donc ça, c'est la course masculine. Il y aura également la course féminine aujourd'hui à 13h35. Le départ arrivé vers 18h pour la doyenne des classiques. Pauline Ferrand-Prévot va essayer de gagner cette course pour la première fois. Attention, il y a une grande favorite. C'est la double vainqueur d'Amy Vollering. Mais la Française, vainqueur du Tour l'an passé, veut croire en ses chances.
Maintenant, j'ai plus le choix. Demain, il faut que j'arrive à bien grimper. Je pense que la flèche, c'était un peu trop explosif, comme je l'ai dit. Je pense ne pas mentir à moi-même. Donc demain, ça va être bien de voir et de voir où j'en suis dans des bosses un peu plus longues. C'est vrai que j'ai tout intérêt à ce que la course soit dure et pas arriver au sprint. Donc ça va être le but de demain, essayer de durcir la course pour essayer de finir toute seule ou en tout cas en petit groupe.
Et demain, c'est aujourd'hui, évidemment, Liège-Bastogne-Liège, masculin et féminin. Ils ont pris une photo ensemble, hein, d'ailleurs, les deux, Paul Sexas et Pauline Ferrand-Prévot, hier au Palais des Princes-Évêques, là où a lieu le départ de Liège. Ben voilà, nos deux super champions, on l'espère. Donc, cette doyenne des classiques que l'on va suivre avec Maria Azé sur place, avec Christophe Cessieux, avec Jérôme Pinault. Je remercie Boris de nous avoir appelé au 32-16. Et on a beaucoup de messages, évidemment, sur WhatsApp. Pour l'instant, les gens voient quand même voilà, Pogacar favori. Et on le pense tous, hein. Pogacar est le favori. On va le répéter, Pogacar est le favori pour gagner aujourd'hui. C'est Paul Sexas, c'est un outsider dans cette course. On revient dans un instant, le zapping des grandes gueules du sport sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Clignot.
Avec Cédric Aymon, Julien Beneteau, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Dans un instant sur le ring, croyez-vous à la révolte à Marseille avant le match entre l'OM et Nice ce soir à 20h45. Les Marseillais à 5 points du podium ce matin. On vous attend évidemment pour voter sur le compte X des GG du sport notamment. Tout de suite le zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas les amis. En top 14, l'UBB battu par Montpellier s'éloigne un peu de la deuxième place directement qualificative pour les demi-finales. Christophe.
Ah, je m'en fous pas du tout.
Cédric.
Je m'en fous pas du tout.
Bennett.
Non, non, je m'en fous pas.
Jérôme.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser parler les copains.
T'as fini tes pronostics pour savoir qui va aller en demi-finale, juste Bennett?
Ouais, j'ai fini mes pronostics.
Alors?
Ils y seront en demi ou non, l'UBB?
Non, en demi direct, ce sera le Stade Toulousain et Pau d'après mes calculs. D'accord,
c'est important. Voilà, c'était pour cadrer le débat. On a une semaine, on a une semaine de la demi-finale de Champions Cup contre Basse, hein, pour les Bordelais qui sont heurtés à un mur, le mur montpelliérain, hier adversaire direct pour le top 2 ou top 4. L'UBB est cinquième au classement ce matin. Il reste 4 matchs de saison régulière, hein, pour eux à Bayonne, contre Perpignan, à Toulon et contre Clermont. Yannick Bruy, le manager bordelais.
La tâche, on se l'est compliqué depuis un moment, en top 14, et ça ne fait que forcer le trait, accentuer la tendance. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est penser nos plaies, essayer de retaper nos blessés, être chacun les plus performants possibles dans nos domaines de compétences, et proposer une grande semaine de travail qui, j'espère, sera conclu par une grande performance, parce qu'aujourd'hui on a des regrets.
Le top 2 est en danger là, Cédric? Ah, pour
oui,
l'UBB,
pardon, oui, moi, même
grand danger,
je pense même qu'ils vont se déplacer en quart de finale. Après pour avoir vu le
donc
match,
terminer 5e ou 6e,
oui exactement, après pour avoir vu le match, ce qui est dommage c'est qu'ils perdent le fil là, quand ils sont 15 contre 13, ils se précipitent. On n'avait pas l'habitude de voir ça du côté de Bordeaux. Ils construisaient leur match, ils avançaient. Et là, ils se sont précipités. Ils ont voulu aller vite et ils n'ont pas posé le jeu. Jalibert a fait un peu moins d'exploits. Puis surtout, il faut reconnaître qu'en face, il y avait un mur et que les Montpelliérains est peut-être l'équipe qui peut les embêter le plus.
Ouais. Ah ouais, tu vois le favori
ouais, dans la dimension puissance, défense. Même s'ils ont progressé en attaque, les Montpelliérains, ils m'ont impressionné.
Chris.
Ouais, et puis le problème, c'est qu'ils sont obligés de jouer quand même à fond le championnat et en même temps cette Champions Cup. Ils n'ont pas le temps vraiment de faire souffler les mecs. Ils les ont fait souffler la semaine dernière. Ils ont pris une rousse contre La Rochelle. Là, il y avait l'équipe type alignée quand même hier. Hein, et malgré ça, alors est-ce qu'ils avaient déjà la tête au match face à Basse la semaine prochaine? Bref, ça va être compliqué. La fin de saison va être compliquée pour Bordeaux, qui joue sur deux tableaux, mais qui ne semble pas aussi fort que l'année dernière.
C'est en début de saison, la première partie. Où ils loupent des bonus, où ils loupent des victoires, et ils se mettent tout seuls en difficulté.
Bon, ils sont à deux matchs d'être champion d'Europe une nouvelle fois. Je pense qu'ils ont ça en tête parce qu'ils même s'ils ont battu Toulouse en quart. J'ai l'impression que Toulouse, sur les phases finales de championnat de France du top 14, il y a un truc supplémentaire. Donc peut-être qu'ils mettent un peu plus
le Toulousain, inconsciemment. Ça les agace de pas être champion d'Europe.
Ah ouais, l'année prochaine, ils vont.
Bah, bon, Toulouse, pareil, ils l'ont perdu en poule. Hein.
Ouais.
Toulouse-Clermont ce soir, 21h05, en clôture de la journée. Évidemment, ce sera à suivre sur RMC.
12, 75, un truc comme ça. Le dimanche soir avec Toulouse, c'est à peu près ça.
Le nombre de points marqués ?
58, 15.
C'est bien, 58, en fait, on devrait faire une émission comme ça. Les prédictions
en revanche, là, on a eu des vrais matchs de pré-phase finale hier. Stade français qui était.
Mais
parce que les deux managers de chaque côté mettent ce qu'ils ont de mieux sur la pelouse.
Parce que là, c'est obligé, c'est le détail.
On va pas faire le débat du match phare du dimanche. Mais ça devient chiant.
Mais c'est ce qui est dingue, c'est que le diffuseur n'arrive pas à cibler.
La semaine dernière, ils ont commencé à gueuler en direct. La semaine dernière, ils ont commencé Marc Lévermont, il a commencé en direct.
Là, il va y avoir match parce que Clermont vient avec la Toulouse.
Et ils sont obligés.
Il reste 4 journées. Donc là, effectivement, il va falloir envoyer les titulaires un peu plus parce que sinon, c'est même pas très lisible pour le public, malheureusement. Tiens, je rappelle que le 15 de France féminin a gagné hier face à l'Irlande. 26-7, c'était à Clermont, Marcel Michelin. 3 succès en 3 matchs dans le tournoi. Je rappelle que les Anglaises seront le dernier adversaire des Français
à la seconde mi-temps. Et après, petit coup de gueule, arrêtez de mettre les matchs en même temps.
C'était hier soir.
C'est pas possible. T'es en train de jongler, tu conduis.
Le mieux, c'est RMC, t'es tranquille. Au volant, t'écoutes la radio. Et puis voilà. Allez, on zappe. Je m'en fous pas. En tennis, un match fou entre deux Français au Mastersville de Madrid. Plus de crampes, Terence Atman bat quand même Hugo Humbert, Bennett.
Là, je m'en fous pas.
Jérôme ?
Ben, je m'en fous pas.
Christophe ?
Ouais, pareil.
Cédric ?
Ouais.
Pareil. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Terence Atman s'est imposé face à Hugo Humbert, 7-6, 7-6, dans des circonstances assez dingues. Atman menait 5-2 dans le deuxième set avant de disputer les derniers jeux avec des crampes terribles qui l'a même empêché de se déplacer. Il y a même Humbert qui est venu à un moment donné carrément de son côté pour lui donner une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. C'était près des bâches au fond du court. Ça n'a pas empêché Atman, quelques minutes après, de remporter le match et il y a eu quelques sifflets dans le public au moment de la fin. Mais voilà, Bennett, ça a fait beaucoup parler. Hein, ça,
mais qu'il ait des crampes, etc., ça peut arriver à tout le monde et il y est pour rien. Il n'a pas fait exprès d'avoir des crampes et il n'a pas joué. Enfin, je veux dire, il n'a pas été anti-sportif en essayant de gagner du temps ou quoi que ce soit. Il a fait comme il a pu. Hugo Humbert a fait une erreur en voulant être trop sympa, en amenant la chaise. Il aurait pu, mais ensuite, il ne doit pas rester du côté du terrain, il doit repartir. Et lui, il doit être prêt à jouer.
Pourquoi il doit repartir? Parce que comme ça, ça permet d'avoir des pénalités pour l'adversaire qui ne joue pas, en fait.
Pour crampe, t'as pas le droit d'avoir de traitement médical. C'est une défaillance physique. C'est normal.
C'est complètement débile, d'ailleurs, ça.
Non, parce que
t'as envie de faire pipi, là, tu peux t'arrêter, mais t'as une crampe, alors que tu peux plus bouger,
parce que c'est une défaillance physique. Donc, le mec en face de toi, il est mieux préparé, il est mieux entraîné, ou il supporte mieux la pression. Donc, c'est normal qu'il profite de ça. En revanche, normalement, il y a un règlement. Tu dépasses le temps, avertissement pour dépassement de temps, point de pénalité. Atman, il a pris ça. Il aurait dû reprendre. Point de pénalité. Il aurait dû reprendre jeu de pénalité. Où c'est que point de pénalité au niveau du règlement et surtout dans le tie-break. Humbert mène 5-2. Atman ne peut pas jouer. Après, Humbert sort du match. C'est de sa faute aussi. Mais normalement, le règlement, l'arbitre a complètement déconné. Atman aurait dû avoir beaucoup de points de pénalité.
Atman, il pousse le truc jusque pour casser le rythme.
Il est obligé. Ça, une fois que tu l'as, les crampes.
Ouais.
C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que.
Est-ce
jouer avec des crampes?
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas volontaire?
Bon, ça, c'est pas. Non. Je pense que vu les images, il était, mais au fond du terrain, il pouvait pas bouger,
il pouvait pas être désarticulé,
etc. Après, Humbert.
C'est lui, Humbert, qui perd le match.
Il a mal géré le truc. Il est sympa, ok, il apporte la chaise. C'est ce que dit un des officiels de l'ATP aujourd'hui. Il dit. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Humbert, il est du côté du terrain. Il n'est pas prêt à jouer. S'il est prêt à jouer, après à servir, en disant.
La sanction de l'arbitre, Julien, elle n'arrive pas parce qu'Humbert est de l'autre côté.
Il a été trop sympa, en fait.
Mais après, quand le jeu a repris, Atman était encore plus
fort. Mais Chardy, l'entraîneur d'Humbert, était fou furieux contre l'arbitrage.
Contre l'arbitre français, en plus.
Je repense à Christophe qui veut que le sport s'arrête quand on a des crampes. T'imagines, dans la montée du Tourmalet. Pardon, j'ai des crampes.
Sur un cours de tennis, tu t'arrêtes dès qu'il y a une goutte de pluie, tu t'arrêtes à n'importe quel moment, mais là, il y a des crampes.
C'est vrai,
t'arrêter.
Après, les sifflets du public, J'invite tout le monde à aller faire du sport et choper des crampes.
Oui, c'est affreux.
On siffle pas, ouais, c'est horrible. Horrible. C'est horrible, c'est la pire des douleurs.
Notre producteur Maximin Bollin a eu des crampes sur le marathon de Paris, il est allé au bout.
Ma première fois de sport de haut niveau, c'est bon.
Il s'est arrêté à 4h, il a été boire.
Il est en dessous de moins 3h20.
Non, mais les runners du dimanche, c'est pas des. Il y a un podcast pour ça.
Un bon jus de cornichon et c'est parti. Arthur Fils contre Nava aujourd'hui, l'américain au Masters 1000 de Madrid. On suivra ça évidemment. Je m'en fous pas. Jonas Vingegaard pense que c'est son année.
Pour faire, quoi, pour faire quoi? Vendre des poissons?
Ah, vous êtes un méprisant,
Christophe.
Je m'en fous pas.
Cédric?
Je m'en fous pas.
Alors, il a été vaincu, j'en fais la deux reprises par Pogacar. C'est deux dernières années sur le tour.
Il veut plus t'entendre.
Mais non, mais t'as dit pourquoi pour vendre du poisson? Je me suis dit que tu t'en foutais.
Ouais, je m'en fous pas du tout.
Donc, je rappelle qu'il a terminé deuxième derrière Poggi sur le tour les deux dernières années. Il a gagné le Vingegaard également le Tour de France dans sa carrière deux fois. Il se voit triompher à Paris, en fait, peut-être cet été. Je rappelle qu'il espère briller sur le Giro en mai. À la télé danoise, il a dit ceci, hein, lui qui a gagné Paris-Nice, c'est le Tour de Catalogne. Sur le Tour de France, avec Tadej, on a alterné les victoires. Il a gagné ces deux dernières années. Alors, c'est à mon tour cette année. J'en suis convaincu.
Waouh. Moi, je suis absolument pas convaincu. Il a juste oublié qu'il va faire le Giro et qu'il va tomber contre Tadej Pogacar, qui aura eu le temps de se reposer et qui va préparer ce Tour de France pour aller battre des records et continuer dans sa lignée. C'est le cinquième cette année. Il va aller le chercher, Poggi. Donc, Vingegaard, il fait beaucoup de com. Après, c'est derrière Pogacar.
Oh, il fait beaucoup de com. Tu trouves?
De plus en plus.
C'est vrai. Il était venu sur RMC notamment, me dire que
sur l'objectif Tour de France, je pense qu'il s'emballe un peu. Par contre, en revanche, il est l'ultra favori et favori du Giro. Et ce sera déjà une très belle année en gagnant le Giro.
Mais franchement, il fait une très belle saison jusqu'à présent. Ouais, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Tour de Catalogne, avec autorité. Bon, il avait peut-être pas l'adversité qu'a rencontré les autres, mais en tout cas, moi je trouve qu'il a jamais été autant en forme à ce stade de la saison que depuis des années.
Je suis d'accord avec toi, j'aurais kiffé le voir pour le Tour.
Et tant mieux pour le Tour.
Moi, je m'en fous pas parce que c'est la différence de com qu'il y a entre Paul Sextas et Vingegaard. Il y en a un qui annonce très clairement.
Enfin, il y en a un qui a gagné deux fois le Tour.
Ouais, mais dans la com, c'est pas pareil. Moi, je dis qu'il se met de la pression.
Et surtout, c'est surtout de la part d'un garçon qui se plaint d'être souvent parti de la maison et que les stages en altitude plus le Giro, j'aimerais savoir où il en sera après.
On en avait parlé avec lui sur RMC. Il avait dit effectivement, avec mon équipe, c'est l'une des choses les plus importantes.
Mais son équipe, c'est une chose. Sa famille en est une autre. Ça, on va en parler tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il soit prêt à assumer tout ça.
Tiens, je vous donne rapidement les informations. Sachez que Troyes est assuré de monter en Ligue 1. Hein. L'Estac qui a gagné hier à Geoffroy Guichard 3-0. Donc assuré de remonter. On rappelle qu'il n'était pas remonté depuis 3 ans. Hein. Eux qui avaient été repêchés, ils auraient dû aller en national il y a 2 ans, mais la descente de Bordeaux administrative les avait sauvés. Et puis je donne une information importante également, c'est qu'en NBA, Minnesota mène face à Denver 3-1 dans sa série, l'équipe de Jokic. Ça veut dire que peut-être, si les Spurs de Wembanyama passent au tour suivant, peut-être qu'ils n'affronteraient pas l'équipe de Jokic, hein, si jamais ils perdent encore un match, mais plutôt les Timberwolves de Rudy Gobert. Évidemment, on va continuer à en parler. Les Spurs jouent ce soir. On verra si Wemby sera présent. C'est à 21h30, heure française. Allez, on revient dans un instant. Tout de suite, on va parler de l'OM face à Nice ce soir. Croyez-vous à la révolte. On vous attend au 32-16 sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.